Au cours d'une conférence de presse réunissant le premier ministre du Canada, de même que le premier ministre du Québec, il y a eu des annonces de fait, importantes annonces. Évidemment, on a parlé de ce programme de 6 milliards de dollars, un transfert fait au Québec, qui sera majoritairement appliqué au domaine des garderies, qui a fait dire au premier ministre du Québec, écoutez, nous travaillons présentement à mettre en place un système qui fait en sorte que chaque enfant au Québec aura une place en service de garde, imminemment, très bientôt. Hâte de voir cela, parce que c'est quand l'organisation des projets se met en place que l'on trouve le diable caché dans tous les recoins. Il y a été question également, et là ça en a surpris plusieurs, ça arrive souvent dans des conférences de presse où on questionne les politiciens sur d'autres choses que le sujet initial, et ça a été l'occasion d'apprendre, et le premier ministre du Québec l'a dit, qu'il mettra en place, et on passera pas à côté, le passeport vaccinal au Québec. Alors donc, on va parler à Annie Guillemette qui était sur place et qui a suivi cette conférence de presse et qu'on y retrouve. Bonjour Annie.
Bonjour Jean-Luc.
Alors donc, épidémiologie, c'est clair, on s'en va parce qu'il y a des cas, là, 300 cas aujourd'hui seulement dans les dernières 24 heures. Donc, on se dirige vers ce passeport vaccinal, c'est un incontournable.
Ouais, il est maintenant inévitable. Les personnes qui ne sont pas encore vaccinées peuvent encore là aller chercher leur première et leur deuxième dose, mais probablement qu'ils ne seront pas vaccinés assez rapidement parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il va arriver plus vite que tard le passeport vaccinal. La seule chose, Jean-Luc, c'est que M. Legault a été plutôt flou sur les critères d'entrée en vigueur et sur l'application comme telle du fameux passeport vaccinal. Il a dit, écoutez, la quatrième vague, elle est là, on la voit se poindre à l'horizon et avec l'augmentation des cas d'aujourd'hui, on comprend qu'on commence vraiment à être dans cette quatrième vague. Et il y a d'autres éléments qui, au cours des mois, seront importants. La rentrée des classes arrive à grande vitesse. On sait que les cégeps et les universités vont aussi faire des cours, comme on dit le nouveau mot, en présentiel.
Oui, oui.
Donc, c'est nécessaire de contrôler la pandémie avec surtout le fameux variant Delta. Donc, à quoi il va ressembler ce passeport-là? Bon, on sait que c'est pour les gens qui ont reçu deux doses, donc qui sont, comme on dit, pleinement vaccinés. Quels seront leurs droits? Ça, c'est moins clair. Il a parlé de restaurants et autres. Donc, on verra quelles seront la liste des activités compris dans les autres. Cependant, à propos des critères d'implantation, il nous a donné quelques détails. Bien sûr, la hausse des cas, ça, c'est ce dont on parle depuis les derniers jours, ce dont on parle beaucoup. Mais il y a bien sûr les hospitalisations. Il a dit, écoutez, aussi, je veux suivre les situations dans certaines régions. On sait que ça flambe du côté de la Mauricie présentement. C'est difficile en Estrie aussi. Il a dit aussi, je vais vérifier comment ça va se passer dans les établissements scolaires à l'automne, dans les cégeps, dans les universités et dans les écoles. Et on va voir comment on va gérer tout ça. L'annonce formelle de tout ça, Jean-Luc, sera faite, nous dit-on, dans les prochains jours par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qu'on n'a pas vu, lui, depuis le retour des vacances. François Legault revenait aujourd'hui devant les caméras, donc il en a profité pour faire cette annonce-là sans trop donner de détails. Autre élément, cependant, important et concernant la rentrée scolaire, on avait beaucoup parlé d'une rentrée sans masque pour les enfants dans les classes qui en ont ras-le-bol de passer la journée avec un masque dans le visage.
Ah, ça sera plus le cas.
Ben, il a dit que c'était à revisiter possiblement. On est en réflexion, on le sent du côté de la santé publique. Est-ce qu'il y aura des masques dans les corridors? Est-ce qu'il y aura des masques pour certaines activités, d'autres pas? On verra, mais semble-t-il que l'école sans masque, 100%, c'est peut-être plus si certain.
Bon, cette conférence de presse, cependant, était tenue pour faire une annonce d'un transfert de deniers fédéraux vers le Québec à la hauteur de 6 milliards de dollars pour les 5 prochaines années.
Effectivement, et François Legault, le mot qu'il a probablement le plus répété, c'est sans condition. Ce transfert-là, oui, est de l'argent pour les services de garde, mais comme le fédéral a copié le service de garde qui existe déjà au Québec, ben peut-être qu'on n'a pas besoin du 6 milliards au complet. François Legault a dit, écoutez, il manque 37 000 places ou à peu près dans les services de garde au Québec. On va les combler, on va augmenter les salaires des éducatrices. À ce propos-là, ils sont en négociation, mais il n'y a rien de concret et de données là, vraiment officielles. Pour le reste, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Ben, il a dit, on verra. C'est ce qui est important, c'est que il n'y a pas de condition d'attacher à ce 6 milliards de dollars-là. Et donc, il a même fait des farces là avec les transferts fédéraux en santé. Donc, on verra. Là, c'est vraiment à la discrétion du provincial, ce 6 milliards de dollars-là. Faut bien le dire, hein, c'est sûr. 5 ans pour les 5 prochaines années.
Ouais, pour le bénéfice des gens, c'est que souvent, évidemment, avec les juridictions fédérales et les juridictions provinciales, il arrive qu'on reçoit des sous condition d'agir de telle ou telle façon, ce qu'on a toujours au Québec considéré comme étant de l'ingérence du fédéral dans ces matières. Là, c'est pas le cas dans ce cas-ci. Alors, voilà.
C'est ça. Ce ne sont pas des sommes dédiées, comme on dit.
Exact, tout à fait. Et par contre, on aura l'occasion de parler au ministre Lacombe un peu plus tard au cours de l'émission. Merci beaucoup, Annie Guillemette.
Au revoir.
Merci. Puis pour le moment, cependant, on va parler à Nima Machouf. Madame Machouf est épidémiologiste, comme vous le savez. Et évidemment, on va parler de cette annonce incontournable maintenant d'un passeport vaccinal pour le Québec. Bonjour, Madame Machouf.
Bonjour, Monsieur Moncret.
C'est-tu une bonne chose?
C'est pas une mauvaise chose.
Ouais. Il y a une nuance.
On aurait souhaité ne pas en avoir besoin. J'aurais souhaité que tout le monde se fasse vacciner plus rapidement et qu'on en finisse avec toute la campagne de vaccination qui draine énormément de nos ressources humaines et matérielles aussi pour ça. J'aurais préféré que ce soit histoire du passé et qu'on passe à l'ouverture en toute sécurité. Mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint ce stade.
Et le niveau de vaccination justifiant qu'on puisse dire maintenant, étant à 85%, admettons, vacciné, l'immunité collective est garantie. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'autres pressions.
C'est ça. C'est que la vaccination va bien, mais on n'a pas encore atteint ce seuil de protection communautaire, ce seuil d'immunité collective. On ne l'a pas encore atteint. Peut-être dans certaines poches de population, on l'a déjà atteint, mais au niveau général, elle n'est pas encore là. Alors, si on veut lever les mesures, le virus, il est toujours là, là. Le virus, il va très mal dans le... La COVID va très mal dans le monde et le virus est très, très, très présent. Alors, il continue à se propager de la même façon. Si on veut enlever les restrictions et les mesures sécuritaires, ça veut dire qu'on va favoriser les contacts. Donc, il faut remplacer ça par une autre façon pour éviter que les gens s'infectent. La vaccination, c'est la meilleure protection qui peut nous être offerte. Elle est très, très accessible. On l'a gratuitement. Il y a des pays dans lesquels les gens se battent pour avoir accès au vaccin. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. On en a. Alors, profitons-en pour pouvoir être protégés contre le virus et pour qu'on puisse se permettre l'allègement des mesures.
Mais Mme Machouf, la résistance que nous avons fait en sorte que, bon, on n'a pas cette immunité là, vaccinale requise. Le problème, c'est que, justement, cette résistance-là fait en sorte qu'elle force les autorités politiques, parce qu'un passeport vaccinal, c'est une décision politique davantage, à mon point de vue, que de santé publique. C'est un autre incitatif. On referme, on amène les gens dans l'entonnoir pour en arriver à obtenir le taux de vaccination souhaité.
Oui, oui, c'est une mesure qui va inciter bien des gens à aller se faire vacciner. J'ai rencontré récemment des gens qui disaient ben moi si c'était pas pour voyager
je me ferais pas vacciner.
C'est ça. Mais étant donné que je veux voyager, je me fais vacciner. L'autre pourrait penser que ben moi si je veux aller au restaurant ou au cinéma tranquille, mais je vais me faire vacciner. L'autre pour sa sécurité, l'autre pour la sécurité de sa famille. Chacun a sa raison pour se faire vacciner. Mais le passeport est un incitatif, oui.
On le voit d'ailleurs dans d'autres pays. Là. Macron, en France, le président Macron, il va de ce passeport vaccinal et ailleurs également, on trouve des moyens, j'allais pas dire coercitifs, mais en tout cas, qui font en sorte qu'ils sont incitatifs à la résistance.
Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est pour ça que je disais, c'est pas une mauvaise chose, mais j'aurais préféré qu'on n'en ait pas besoin.
Mais c'est un mouvement de résistance qui existe à peu près dans toutes les initiatives. On retrouve une résistance au changement ou à l'État.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais heureusement, au Québec ou au Canada en entier, ce mouvement de résistance n'est pas très fort. La majorité des gens se sont fait vacciner. Si on regarde les personnes qui pouvaient se faire vacciner, donc les 12 ans et plus, parce que pour l'instant, le vaccin n'est pas encore disponible pour les en bas de 12 ans. Donc, chez les personnes de 12 ans et plus à travers le Canada, 80% ont déjà reçu une première dose, puis 64% en ont eu deux doses. Si on le calcule sur l'ensemble de la population, les chiffres sont un peu plus bas parce qu'on a un 10% de population qui a moins de 12 ans et qui ne peut pas se faire vacciner encore. Mais ça veut dire qu'on a quand même un beau taux, un bon rythme. Le problème, c'est que la campagne de vaccination n'est pas viable de la manière où elle est
engagée.
C'est ça, engagée présentement, parce qu'il y a des urgences qui ferment parce qu'on n'a pas d'infirmières et toutes nos infirmières sont accaparés par la campagne de vaccination. Donc, pour que ce soit rentable pour le système et pour nous, la population, il faut qu'on aille se faire vacciner le plus rapidement possible.
Mais, vous savez, quand je regarde les statistiques, et là, on vient d'avoir les chiffres, 300 cas aujourd'hui de contamination, mais pas plus d'hospitalisation, pas de décès. Alors, ça frappe moins l'imaginaire, ça fait moins crainte. On dit, bon, ben là, ils sont malades, mais pas assez pour être hospitalisés. Ça monte, mais là, la population est vaccinée pas mal. Alors, vous savez, c'est malheureux à dire, mais c'est presque, dans bien des cas, la peur ajoute à la sagesse.
Vous avez raison. Maintenant, les gens pensent que c'est banal parce qu'on ne voit plus de décès. Pourquoi on ne voit plus de décès? Parce que ceux qui étaient les plus fragiles et les plus susceptibles de décéder, maintenant, ils sont protégés par le vaccin. Le problème, c'est que les personnes qui s'infectent aujourd'hui, et à mon avis, c'est très inquiétant le nombre de personnes qui s'infectent aujourd'hui et à peu près au même niveau que l'année passée à pareille date. Mais l'année passée à pareille date, on n'avait pas de vaccin. Maintenant, on est à 64% de doses, deux doses de vaccin. Alors, c'est pas normal qu'il y ait autant de cas d'infection. C'est parce que le virus qui est en circulation n'est plus le même virus. C'est un virus qui infecte beaucoup plus de gens, qui a une capacité à se transmettre qui est plus grande. Alors, Monsieur Mongrain, on a à peu près 10% jusque-là. On avait à peu près 10% de personnes qui attrapent la COVID qui ne peuvent pas s'en débarrasser. Qui se ramasse avec ce qu'on appelle une COVID longue. Donc, des séquelles neurologiques, des séquelles physiques qui perdurent. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas s'ils vont être chroniques ou les personnes vont pouvoir s'en débarrasser. Mais il y en a qui sont déjà rendus à 8 mois où ils ne sont pas encore capables d'aller travailler, ils ne sont pas encore capables d'aller prendre une marche comme du monde et parler normalement. Donc, 10%, heureusement, ce n'est pas la majorité des gens, mais 10%, c'est énorme.
C'est énorme.
Et ça frappe autant les jeunes que les vieux. Et ça, ça ne se reflète pas dans les statistiques, mais ça, c'est beaucoup d'incapacité dans une société.
Je pense que vous amenez là un point intéressant pour lequel nous sommes inconscients, c'est-à-dire que cette COVID longue, qui est une des manifestations et des séquelles de cette maladie, de ce virus, fait en sorte que peut-être que nous n'avons plus de décès, peut-être qu'il y a moins d'hospitalisation, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont hypothéqués pour un long moment, peut-être même toute leur vie, par cette atteinte-là. Et ça, ben, ça ajoute au handicap ou aux gens qui sont inactifs dans la société.
Exact. On en connaît encore très peu sur la COVID longue et il faut faire beaucoup d'études pour comprendre quel est ce phénomène, comprendre qui est-ce qui risque de se ramasser avec la COVID longue. On le sait pas encore. La seule chose qu'on peut voir pour l'instant, ce sont les manifestations et la durée de ces manifestations. Les gens ont des pertes de concentration, ont des pertes de mémoire, ont une fatigue chronique, les poumons sont affectés, le goût et l'odorat, ils partent, ils reviennent. Mais tout ça, ce sont des séquelles neurologiques. On sait pas où est-ce que les séquelles sont restées aussi.
Et où ça, alors, jusqu'où ça peut aller.
Beaucoup de choses à apprendre.
Et jusqu'où ça et peut où, aller.
Exact.
Nima Machouf, merci beaucoup de votre éclairage, votre expérience dans ce domaine-là, parce que, évidemment, je suis convaincu que l'annonce même d'un passeport vaccinal va créer un certain remous dans la population, en tout cas à ceux qui résistaient préalablement et qui se voient donc peut-être coupés de certains privilèges. Merci beaucoup.
Merci à vous, M. Monclin. C'est toujours un plaisir.
Au plaisir, au revoir. On s'arrête pour une pause et on poursuit. Je vous rappelle qu'un peu plus tard, nous parlons au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, parce que, évidemment, la vie continue et ça prend des places pour les enfants à la garderie.